Bonsoir et bon début de semaine à tous. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Le premier contingent kényan d'environ 300 militaires de l'EAC a quitté Goma au Nord Kivu dimanche 3 décembre matin à destination de Nairobi au Kenya. Ce retrait fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force sous-régionale accusée d'inefficacité. En mission en RDC depuis une année, ils avaient pour objectif d'occuper les espaces conquis par les rebelles du M23. Accusé par la population de cohabiter avec ces rebelles, le gouvernement congolais avait donné à cette force régionale jusqu'au 8 décembre pour quitter le sol congolais. Au lendemain du retrait du premier contingent des forces de l'EAC, la société civile du Nord Kivu a demandé au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État sur toute étendue du territoire national. Le président de cette structure citoyenne a rappelé que c'est au gouvernement de jouer son rôle pour ne pas laisser des milliers de compatriotes à la merci des rebelles du M23 après le départ des militaires de l'EAC. Quelle est sur terre de ce retrait? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 4 décembre 2023. Participe au débat Henri Pacifique Mayala. Il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker, un projet conjoint de Jacques Boutelli, Human Rights Watch et la Bridgeway Foundation. Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonsoir. Placide Nzilamba, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Je crois qu'on a un souci avec la ligne téléphonique. Professeur Moïla Tchimbe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques des Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
À Goma au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous pouvez suivre aussi en live cette émission sur la page Facebook de Radio Okapi ainsi que sur la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Au Nord Kivu, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est est en pleine opération du retrait de ses troupes de l'Est de la RDC depuis deux jours. Les premiers à partir sont environ 300 militaires du contingent kényan. Ils ont quitté hier dimanche 3 décembre la RDC depuis l'aéroport international de Goma après un an de déploiement. Quels sont les contours de ce retrait? Tentative de réponse dans cette converse de Guy Maté et Rosalie Zawadi.
Bonsoir Rosalie.
Bonsoir Guy Maté.
Depuis le début du retrait des éléments de cette force régionale, on peut savoir combien ont déjà quitté les territoires congolais?
Jusqu'ici, nous n'avons en notre possession que les chiffres d'environ 300 éléments du contingent kényan qui ont quitté Goma dimanche. Selon des sources sur terrain dans les territoires de Masisi et Rutshuru, les éléments de la force régionale encore présents font leurs valises. La société civile de Kisigari, dans les Rutshuru, explique que les éléments positionnés à Rumangabo sont déjà prêts à partir. Ils ont déjà démonté leur matériel et n'attendraient que les go de leur hiérarchie pour quitter la zone. Ceux qui étaient à Tongo ont déjà quitté les lieux, témoignent les sources dans le milieu.
Et à part le contingent dont vous venez de parler, quelle est la situation des autres contingents de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est?
Juste à présent, aucune communication n'est faite, notamment au niveau de la province, sur les autres contingents de cette force régionale. Il s'agit notamment des Burundais déployés sur l'axe territoire de Masisi, les Sud-Soudanais déployés avec les Kenyans sur l'axe Nyiragongo-Rumangabo-Tongo et les Ougandais qui, eux, sont déployés sur l'axe Bunagana-Rutshuru-Kiwanja-Mabenga. Ce qu'on sait, c'est que ce retrait se fera progressivement en commençant par les unités non essentielles, d'après le quartier général de l'EACRS. La même source indique qu'après le départ par avion des éléments kényans, les chargements de l'équipement et les mouvements d'autres troupes vont se poursuivre par la route et par les airs.
Et qu'est-ce que sait-on d'autre sur le terrain depuis le début de ces retraits?
Il faut dire que la situation est restée tendue ce lundi, en particulier dans la partie est du territoire de Massissi. Durant la matinée, soit depuis 5 heures du matin, des violents combats ont opposé les rebelles du M23 au FRDC et groupes armés locaux dans les villages proches des cités de Saké et Mouchaki. Pendant ce temps, les rebelles du M23 maintiennent toujours leur position dans la grande partie du territoire de Rutshuru, dont les localités de Tongo, Rumangabo, ainsi que les groupements de Burumba et Kibumba en territoire de Nyiragongo, où se retirent les troupes kenyanes de l'EACRS.
Et comment la population réagit-elle face, n'est-ce pas, au début du retrait des éléments de la force régionale de l'EAC?
La société civile, par exemple, s'est exprimée à ce sujet. Elle salue les débuts de ces retraits et espère que le dernier élément de la force de l'EAC aura quitté la RDC avant le 8 décembre. Elle relève et note qu'à l'exception du contingent burundais, les autres contingents s'étaient rangés du côté des rebelles du M23. Les acteurs de la société civile s'inquiètent du fait qu'il sera difficile de contrôler l'effectivité du retrait du contingent ougandais. Ce dernier est entré en RDC par Bunagana, une cité sous contrôle rebelle, et devra sortir par la même voie. Le quartier général de l'EACRF ajoute que le retrait de ses troupes est l'une des étapes de la transition avant que l'EAC transfère ses responsabilités en matière de sécurité dans l'est de la RDC aux forces de la SADC.
Merci beaucoup, Rosalie.
Je vous en prie, Guy.
Merci Guy Mathé et Rosalie Zawadi. Depuis Goma, au Nord Kivu, Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Les premiers contingents kenyans d'environ 300 militaires de l'EAC ont commencé leur retrait à Goma, au Nord Kivu, où ils étaient déployés depuis une année. C'est la suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force sous-régionale accusée d'inefficacité. L'EAC a jusqu'au 8 décembre pour quitter le territoire congolais. Votre lecture d'abord, votre analyse par rapport à ce premier contingent kenyan qui a commencé à quitter la RDC.
Alors, bonsoir Madame Kelly et merci encore pour cette opportunité. Personnellement, ce qui est en train de se passer vient sans surprise. Et je crois qu'autant que ça l'est pour moi, ça l'est aussi pour toutes les personnes qui, d'une certaine façon, suivent la réalité de la région de l'Est du Congo ainsi que la région des Grands Lacs en général. Le départ des forces kenyanes, comme je le disais, ceci advient sans aucune surprise, parce que pour commencer, la dernière fois qu'on discutait encore sur la même chaîne des Apatio Okapi, il s'agissait de présenter la façon que le problème est présenté de part et d'autre. D'une part, les Est-Africains, si je prends en considération en tout cas les efforts de Nairobi, la façon que le problème est présenté n'est pas du tout compatible avec, d'une part, les attentes du gouvernement congolais et d'autre part, la réalité qui se vit sur les terrains. En moins d'une année, déjà, la même force, quand elle déployait, la société civile, ainsi que la plupart, en tout cas, des habitants des régions qui sont sous emprise des conflits à l'est de la RDC, avait déjà décrié cette manœuvre du gouvernement de Kinshasa à aller chercher la solution auprès des mêmes pays ou des mêmes personnes qui, d'une certaine façon, se retrouvent encore partie prenante ou acteurs au conflit, qui sont là parce que, d'une certaine façon, ils sont en train de défendre leurs intérêts. Et de là, nous pouvons partir à essayer un peu de décortiquer sur d'où est-ce que nous venons et comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Si aujourd'hui le gouvernement de Kinshasa refuse de renouveler le mandat de l'EAC, une position qu'a acté la plénière ordinaire du sommet de président de l'Est-Afrique, de la communauté est-africaine à Arusha le 24 novembre passé, Il faudrait voir déjà la légèreté, ben, je m'excuse peut-être du mot, qui ne serait pas beaucoup trop avisé, mais quand vous regardez l'esprit du communiqué qui sanctionne ces assises, vous sentez que la RDC n'est vraiment pas une priorité pour eux. Des 18 points, en tout cas le rapport fait 37 pages, et des 18 points du communiqué final, on ne fait allusion qu'une seule fois au Congo. Et pour moi, cela est une certaine façon de peut-être pas communiquer en profondeur, mais déjà sur la forme, nous comprenons que le problème du Congo ne constitue pas vraiment une priorité, en tout cas pas pour la communauté de l'Est-Afrique. À cela, où est-ce que nous sommes en train de nous positionner en tant que Congolais? On s'est dit on va chercher la réponse ou le soutien au sein de la communauté de la SADC. Mm-hmm. Mais là aussi, il faut savoir où la situation qui se présente aujourd'hui, c'est que 20 jours déjà avant cela, il y a eu cette réunion extraordinaire des présidents de la région de la SADC, et il n'y a rien qui filtre avec une certaine précision pour ce qui concerne le déploiement des forces de la SADC. Si d'une part il y a certains pays qui sont pressentis, d'autre part il y a les conditions qui ne sont pas au rendez-vous. Il y a le financement, la question sur le financement de ces opérations qui coûte extrêmement cher. On parlait de plus de 400 millions de dollars américains. On n'a aucune idée sur qui va donner l'argent. Et d'autre part, ces mêmes pays, la République sud-africaine, le Malawi ou encore la Tanzanie, c'est des pays qui ont déjà des hommes présents au sein de la force d'intervention, de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Et ils ont perdu des hommes au sein de cette unité. Quelles seront les motivations de ces pays-là à pouvoir encore se réengager au-delà de ce qu'ils ont déjà fait? Tout cela, ce sont des questions auxquelles, jusqu'à ce niveau, on n'a pas de réponse concrète en tant que telle. Et si nous continuons à tergiverser, si nous continuons à manquer un leadership prévoyant, si nous continuons à manquer une vision stratégique sur ce que constituent les intérêts du pays, on va continuer à chercher des solutions à tâtonnement et on ne sera pas en train de régler le problème.
Kinshasa parle. Alors, je disais que Kinshasa parle d'inefficacité de la force de l'EAC. Du côté de Nairobi, on vante un bilan positif. Henri Pacifique Mayala, vous venez de le dire. La force de la SADC devrait normalement remplacer l'EAC qui est en train de partir. Mais jusque-là, il n'y a encore rien de concret. Alors, la crainte, est-ce que ce n'est pas de voir le M23 profiter de ce vide pour réoccuper les territoires jadis conquis par eux?
Nous ne sommes plus dans les conditionnels parce que les M23 de plus en plus, ça aussi c'est un élément très important de l'analyse, parce qu'il faut remarquer la façon que les M23 a commencé à communiquer sur ces faits depuis qu'il y a eu l'annonce sur le non-renouvellement du mandat de l'EAC. Le M23 a promis de récupérer toutes les entités qui jadis étaient sous leur contrôle et qu'ils ont passé sous le contrôle de forces de l'EAC dans le cadre de la création de la zone tampon. Et c'est ce qu'on a observé. Ils sont partis le dimanche et déjà ce matin, certaines des zones entre autres. C'est vrai qu'on pourrait toujours dire qu'il y avait cohabitation entre les forces de l'EAC et le M23 de la même façon que du côté où sont déployées les forces burundaises. Ils cohabitaient aussi d'une certaine façon avec les groupes armés et les FRDC. Nous avons vu que le M23 a repris ses territoires et de plus en plus, il faut questionner quelles sont les motivations du M23. Ils l'ont dit clairement dans leur dernier communiqué. Ils vont reprendre la totalité des zones qui étaient sous la considération tampon. Et si vous analysez l'esprit des communiqués récemment publiés par le M23, ils étaient en train de décrier les bombardements dont ils étaient victimes de la part des M23, se passant sous la casquette de la protection civile. ils sont parvenus à repousser ces positionnements en artillerie ou appui des FARDC. Et pour moi, sans pour autant vouloir faire l'expert militaire que je ne suis pas, de plus en plus ils gagnent le terrain, ils se dirigent dans une zone qui constituerait en tout cas pour eux un regain ou une reconstitution de santé économique. Là, on ne sait plus pour quand est-ce qu'on pourrait projeter la fin de cette crise.
Placide Ntilamba, membre de la Société civile du Nord Kivu, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Alors, la Société civile du Nord Kivu salue les débuts de retrait des forces ou des troupes de l'EAC qui étaient basées au Nord Kivu depuis une année, mais vous demandez au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national.
Effectivement, Madame. C'était parmi les demandes criantes, ce n'est pas seulement la société civile Nord Kivu, il faut dire que de toute la population qui a constaté un échec sans précédent de cette force qui, parfois, dans certaines zones, s'est illustrée comme une force qui cogère avec les rebelles du M23 et dans d'autres zones, comme une force qui observe le M23 dans ses velléités de continuer à occuper des espaces. Donc, pour la population du Nord Kivu, la demande n'était qu'unique au gouvernement congolais de ne plus renouveler le mandat de la force régionale de l'EAC. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous, en tout cas, on est satisfaits avec ce début de retrait. Nous pensons que ça doit continuer jusqu'à ce que le dernier homme de la force de l'EAC rejoigne son pays.
Mais
de deux, c'est dire, madame, que...
Allez-y.
C'est dire que, effectivement, il s'observera un défi, mais nous pensons que le gouvernement congolais reste le seul responsable devant cette situation, et nous-mêmes, peuple congolais, nous devons trouver la solution d'abord chez nous, au Congo. Et la solution pour cette crise ne pourrait pas venir de l'extérieur. Et nous avons toujours interdit à notre gouvernement de ne pas recourir vaille que vaille à des solutions extérieures, d'autant plus que nos agresseurs se retrouvent dans toutes les organisations régionales et sous-régionales auxquelles le gouvernement voudrait faire recours. Et nous, on a demandé à ce qu'on privilégie peut-être des coopérations bilatérales avec les États, à lieu et place des coopérations régionales, d'autant plus que la coopération régionale a démontré ses limites. Non seulement parce qu'il y a eu la force de l'EAC qui a échoué, mais dans ces états des régions auxquelles nous appartenons, se trouvent les instigateurs même de la crise et ou les bénéficiaires de toute cette crise qui se vit ici au Nord Kivu. Alors, comme mon prédécesseur l'a dit, ce matin, le M23 a tenté, dans toutes ses velléités, de s'emparer de la zone de Mouchaki, où il se disait qu'il était et qu'il avait abandonné parce que la force régionale s'était déployée, mais ses velléités n'ont pas payé, et même ils ont essayé de bousculer pour essayer de tenter sur ça en attaquant des environs du village de Malé, mais les tentatives n'ont pas payé parce que les forces de la République démocratique du Congo était bien déployée sur ces zones et ont réussi à repousser cette menace. Ce n'est plus de recourir à des forces vaille que vaille. Nous pensons que nous devons nous asseoir avec les responsables ou les autorités congolaises et identifier une solution congolaise qui pourra mieux faire face à cette crise à la place de s'amener entre les mains de nos agresseurs.
Alors, Placide Zilamba, qui occupe les localités où étaient déployées les forces de l'EAC?
Certaines localités sont occupées par les forces armées de la République démocratique du Congo, notamment parce que les forces de M23 auparavant, ils étaient sur la route Sake, massif au niveau de Mouchaki. Mais Mouchaki est occupé aujourd'hui par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais d'autres localités comme Kiroliru sont toujours sous l'emprise du M23, en continuant sur la route Kichanga jusqu'à jusqu'à Mweso, ils sont encore là-bas. Donc, si vous rentrez sur Kibumba, là où la force était déployée au niveau des trois antennes, les forces de M23 s'y sont encore redéployées parce que les forces de l'EAC s'étaient déjà retirées. À Rumangabo, où la force existait et cohabitait avec le M23, c'est le M23 qui y reste. Si vous allez sur Mabenga, les forces régionales de l'Ouganda restent sur Mabenga jusqu'à ce moment même, ils sont toujours là. Nous ne savons pas quand est-ce qu'elles vont commencer à quitter, parce qu'on a compris que l'engouement de quitter ne réside que dans la force kenyane, mais la force ougandaise qui était déployée à Rutshuru, notamment Bunagana, Rutshuru Centre, même Mabenga, où se trouve leur grande position, même Nyongera, Kiwanza, ces forces ne bougent pas. Il n'y a pas vraiment un mouvement.
Et
nous,
vous inquiétez?
Pensons que ça devait être aussi interpellé toutes les autorités pour dire le retrait devait être concomitant, c'est-à-dire au même moment, toutes les forces quittent le sol congolais.
Mais on voit d'autres se retirent,
mais d'autres restent encore.
Ils sont dans le délai, ils ont jusqu'au 8 décembre pour quitter le territoire congolais, Placide Nzilamba.
Donc, effectivement, ça va causer un désordre. Vous savez que les forces ougandaises sont entrées sur le sol congolais sans être contrôlées, et nous ne savons pas, ils sont venus avec quelles armes, quel matériel militaire, pour enregistrer, savoir quand ils vont rentrer. Nous devons contrôler est-ce que toutes ces armes sont rentrées, tous ces matériels militaires sont rentrés, parce qu'il se pose maintenant des doutes et des soupçons que certaines forces pourraient laisser même des matériels au M23 dans des espaces où ils étaient ensemble en train de co-gérer. Donc ça, ce sont des suspicions qu'il y a maintenant sur le terrain, et nous pensons que on devait utiliser d'une autre manière, d'une autre méthode de faire pour savoir contrôler le mouvement des forces. Et le mouvement devait quitter au même moment, et non les autres forces partent avant, les autres vont partir après. Nous pensons que cette manière de faire risque de créer une cacophonie, et même d'autres forces risquent de se camoufler, d'entrer dans le ring, dans la guerre et de certaines parties. Et donc nous pensons que tout ça tout ce système doit être bien contrôlé pour nous rassurer qu'on ne laisse pas encore sur le sol congolais d'autres armes, d'autres problèmes qui vont encore peut-être nous rattraper après.
Professeur Moïla Chimbe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques, dénonce en France les forces ou les troupes de l'EAC ont commencé leur retrait du territoire congolais comme demandé par le gouvernement congolais, le gouvernement qui leur a accordé jusqu'au 8 décembre pour pouvoir quitter la RDC. C'est vrai qu'au début, quand cette force a été invitée en RDC, le gouvernement avait vanté la collaboration de l'EAC pour mettre fin à la rébellion du M23. Aujourd'hui, c'est la séparation pas dans de très bonnes conditions, parce que d'un côté, le gouvernement parle de l'efficacité, de l'autre côté, l'EAC soutient que les troupes sur terrain ont accompli un travail efficace. Peut-on parler d'échec de la diplomatie? Est-ce que on peut dire les choses dans ce sens-là, que c'est un échec de la diplomatie congolaise?
Bien, merci Madame Kelly. Permettez-moi de mettre un peu les pieds dans le plat pour dire exactement ceci. Vous savez, à force de participer à vos émissions, tout ce qui est excessif est insignifiant. Pourquoi? Parce que ces propos, madame, qu'on a déjà entendu mille et une fois, ce récit de la société civile, cette société civile, en réalité, fait partie de l'opposition politique congolaise. Et le propos qui est tenu ici n'a aucune considération sur la validité d'une stratégie militaire. Ces hommes et ces femmes qui parlent, quelle que soit leur qualité et leur respectabilité, ils tiennent des propos des cafés de commerce. Et ces propos ne correspondent pas à l'obligation militaire de nos soldats sur le terrain. Ils disent oui, voilà, il faut qu'ils partent, tous doivent partir. Oui, c'est facile à dire, madame. Mais ce n'est pas facile à faire. Permettez-moi de rappeler que la même société civile à laquelle vous faites allusion aujourd'hui et qui a la parole n'avait pas cessé de tambouriner contre cette force est-africaine, demandant son retrait, accusant le gouvernement de mollesse. Vous avez entendu le propos tout à l'heure. Oui, il ne faut pas une coopération régionale. Oui, il faut une coopération bilatérale. Oui, pourquoi pas, nous devons nous occuper de notre pays. Ça, tout le monde peut le dire. Mais qui peut le faire? Seuls les FARDC, l'armée nationale, avec ses moyens, ses capacités, ses difficultés, peut le faire. Par conséquent, ce propos rejoint un autre propos irresponsable de cette fameuse société civile. Madame, dois-je rappeler combien de fois les mêmes que vous invitez sur votre plateau avaient fustigé la MONUSCO, l'accusant d'être de mèche avec le Rwanda et le M23. Mais le retrait de la MONUSCO est déjà prévu. Vous entendrez la même litanie demain lorsque la MONUSCO va se retirer. On accusera le gouvernement d'imprévision, on accusera la communauté internationale de comploter contre la RDC, c'est la même litanie. Mais madame, quelle est la réalité? Ceux qui parlent ne connaissent pas la question militaire. Par conséquent, il serait prudent, quel que soit notre patriotisme. Je comprends bien nos compatriotes qui vivent dans ces régions dévastées, où les gens meurent au jour le jour. Ils n'ont ni de quoi manger et boire. Ils peuvent être acculés à ces propos tout à fait alambiqués. Mais la réalité, c'est quoi? Ou bien, si on tient un propos responsable, on doit tenir compte de ce que pourrait faire notre propre armée. C'est-à-dire, cette précipitation, la pression qui a été mise sur le gouvernement et qui l'a obligé, contre vents et marées, à accepter le retrait de force est-africaine, quelle que soit l'opinion qu'on puisse en faire, pose un dilemme aux FARDC. Soit les FARDC sont obligés de faire une projection de force d'un point à l'autre des territoires que le responsable de la société civile a énuméré. Ça suppose quoi? Ça suppose une mobilisation des troupes au sol sur l'ensemble de ces théâtres. Cela suppose quoi, Madame Kelly? Le déploiement et l'emploi des unités sur le terrain avec des moyens de commandement, les moyens de combat et les moyens de soutien adaptés. Soit l'autre hypothèse, c'est la projection de puissance de FARDC par les avions militaires, les drones et autres moyens encore. Et ceci permettrait de le faire sans mettre le tout au sol. C'est un dilemme herculien dans lequel est inscrit le FARDC à partir justement de ces pressions irresponsables de la plupart de nos compatriotes, pas tous de la société civile, mais ceux qui jettent toujours l'huile sur le feu, tout en sachant les difficultés de notre armée. Ces capacités de mobilisation, ces capacités de projection, que tout le monde connaît, on ne peut pas demander l'impossible, madame, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste que nous devons, eux et nous, souhaiter que ce soit le commandement opérationnel de FARDC à qui incombe cette charge, si tant est qu'on puisse lui faire des propositions ou l'inciter à faire quelque chose. C'est à ce niveau-là, mon Dieu, il faut s'adresser. Pourquoi? Parce que seul le commandement opérationnel peut, dans l'état actuel des choses, clarifier les missions de notre armée au regard de ce territoire qui sera abandonné demain par les troupes est-africaines et au surlendemain par la MONUSCO. Soit l'objectif de conquête, mission de conquête et de contrôle dans la durée de ce territoire, soit la conquête et le contrôle temporaire de ce territoire, soit une opération ciblée dans le direct avec la neutralisation des forces sur place, soit une opération ciblée et ponctuelle avec effet de sécurisation. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'au moment même où cette opération devrait être pensée par les FADC. Le responsable de la société civile, madame, vient de vous dire que l'ennemi, ou si on parle dans la stratégie militaire, l'ennemi, c'est-à-dire le M23, occupe déjà le territoire en question. Donc le territoire n'est pas vide, contrairement à ce que vous entendez dans le propos du genre « oui, ils doivent partir, nous, on va occuper notre territoire ». Mais le territoire est occupé par l'ennemi. Et l'ennemi a les moyens, madame. La MONUSCO, l'ONU, a reconnu que le M23 a plus de moyens que l'armée nationale. Ce n'est pas une blague, c'est l'ONU qui l'a dit. Et cette société civile qui vit au même endroit connaît bien et voit bien la puissance de l'ennemi. Donc on ne peut pas envoyer au rebut nos soldats en disant « oui, parce que tel s'est retiré, il faut occuper ». Mais pour occuper, madame, militairement, là, il faut une stratégie de protection, il faut les moyens, il faut le temps. Donc, je pense que ces propos sont irresponsables. Et on doit faire confiance à l'armée nationale, soutenir le commandement en chef de ces armées, le président de la République, le commandement opérationnel, et les aider à voir concrètement, en balancier entre la projection de nos forces, leurs capacités et leurs faiblesses, et voir concrètement, dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui est possible de faire au lieu de jeter l'huile sur le feu.
Alors, vous allez rester en ligne, professeur. On va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba, qui a aussi un avis à donner par rapport au sujet débattu ce soir.
Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le retrait des contingents kenyans et l'ensemble des forces de l'EAC en RDC est une expression du flou qui a accompagné cette force lors de son déploiement dans l'est du pays. Les missions précises de celles-ci n'ont pas été connues, ou soit encore ça fait l'objet de beaucoup de controverses. Même les commandants de ces contingents ont été incapables de dire exactement à la presse quelle a été leur mission dans la région du Kenya, laissant ainsi place à toutes sortes de spéculations sur ce sujet. D'autres parlaient des zones tampons, d'autres encore parlaient des traces de délinquants de M23. Finalement, nous n'avons rien compris. Voilà une fois de plus l'échec de la superposition des stratégies contre le groupe armé dans la partie orientale du pays. Je pense que la vraie guerre contre le groupe armé en RDC doit commencer à Kinshasa et au sein des FARDC. Pourquoi? Parce que les groupes armés en RDC ont des ramifications à tous les niveaux des institutions du pays.
Professeur Moïla.
Oui, je comprends les propos sensés de notre compatriote de Kolwezi. Normalement, avant que les troupes se retirent, qu'elles soient étrangères ou nationales d'un coin, la puissance ou la guerre a horreur du vide. Lorsque les militaires qui occupent un terrain quelconque, de montagne ou de vallée, se déplacent ou abandonnent le terrain, automatiquement le terrain sera occupé par l'ennemi. Ou bien on a la capacité de mobilisation supplémentaire pour, avant de quitter, remplacer les militaires qui vont se déplacer, ou on tombe dans l'idéologie soi-disant nationaliste qui consiste à dire « oui, qu'ils partent, qu'ils laissent notre pays, nous on est là, vaille que vaille, on va bouter l'ennemi dehors ». Mais le résultat est là. Dès que ces forces se retirent, c'est l'ennemi qui prend la place avant même nos propres forces. Et ceux qui disent, madame, on dirait qu'ils ne connaissent pas les capacités et les limites de moyens de notre armée. On dirait qu'ils viennent des horizons lointains et qu'ils racontent une fable. La guerre, madame, ce n'est pas une partie de plaisir. Nos soldats meurent au combat, à leur corps défendant. On ne doit pas tenir ces propos comme si on les considérait comme des irresponsables. Nous avons une armée. Elle a ses faiblesses, elle a ses capacités. C'est à son commandement national et son commandement opérationnel d'obtenir des options militaires qui permettent de maîtriser la situation. Et si les civils congolais, notamment ceux qui se frappent la poitrine matin et soir comme société civile, ignorent que nous avons une armée et que cette armée a un commandement, qu'on l'accepte ou qu'on le déplore, en mettant toujours la pression sur les gouvernants pour les contraindre à aller dans le sens de cette prétendue société civile, voilà la conséquence, madame.
Merci, professeur.
Je vous dis, je prendrai le pari, aujourd'hui c'est l'M23, demain ce sera la MONUSCO, vous entendrez la musique des mêmes personnes qui parlent aujourd'hui, comme ils ont parlé hier, sans tirer la moindre conséquence de leurs propos irresponsables sur le gouvernement et sur l'armée.
Merci, professeur Moïla. Henri Pacifique, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Olivier de Bukavu, dans la province du sud Kivu. Longtemps présenté pour besoin de propagande, comme la recette miracle pour sortir des pays de l'isolement, la diplomatie dite agissante aura finalement accouché d'un mirage, voire d'un souris, plongeant ainsi les pays dans un vide diplomatique qui couvrira des hontes, tant ceux qui l'ont initié et ceux qui l'ont insensé, en dépit de nombreuses mises en garde de l'opinion publique. Il nous souviendra qu'à son temps, des voix s'étaient élevées pour dénoncer, et non sans raison, l'adhésion impulsive de la RDC à l'organisation sous-régionale, dite EAC, qui n'était ni opportune ni urgente. Hélas, personne n'a été écouté. Résultat, les pays payent cash en devenant otages de ces engagements hasardeux, conséquence d'une diplomatie émotionnellement prise. En effet, ces retraits du contingent kenyan de l'EAC en RDC soulèvent des questions sur l'efficacité de cette force régionale et sur les rôles du gouvernement congolais dans la protection de sa population. Il met à lumière les défis auxquels le gouvernement est confronté pour restaurer l'autorité de l'État et assurer la sécurité de ses citoyens. Il souligne tout de même la nécessité d'une stratégie claire et efficace pour faire face aux groupes rebelles et protéger les populations vulnérables. Ces retraits mettent également en évidence l'importance du rôle des forces régionales et internationales dans le maintien de la paix et de la sécurité en RDC, tout en soulignant la responsabilité première du gouvernement congolais dans la protection de ses citoyens.
Henri Pacifique.
Alors, tout à fait, Madame Kelly. Et avant de réagir à la question, à la préoccupation de notre compatriote de Bukavu.
Vous voulez réagir au propos du professeur?
Oui, tout à fait. Je voudrais réagir sur le propos du professeur Waïla, que je trouve beaucoup trop dans une nébuleuse idéaliste, dans le sens à rentrer encore dans la même erreur que nous, élites congolaises, continuons, la même erreur, je voudrais dire, que nous, élites congolaises, continuons à perpétrer de génération à génération. Avec toute l'admiration que j'ai pour vous, professeur, je ne crois pas que nous puissions envisager toutes ces théories-là sur base d'une armée qui, pour le moment, comme vous l'avez dit, certainement dispose de certaines capacités, mais les problèmes internes auxquels font face les FARDC, c'est impossible pour le moment de dire que vous pouvez faire porter tout le chapeau que aux FARDC et essayer d'une certaine façon de dédouaner le gouvernant ou de mettre la responsabilité ou pointer les doigts accusateurs sur la société civile. La société civile est dans une position qui n'est pas celle du décideur, mais d'autre part, on se demande sur pourquoi est-ce que nous en arrivons là, pourquoi est-ce que nous prenons ou nous faisons des choix que nous faisons, ou à la limite, pourquoi est-ce que nos dirigeants optent pour les choix qu'ils sont en train de considérer. Je prends un exemple avec l'avènement de l'entreprise Agemira au Congo. Nous les voyons traîner à Goma, ils sont supposés assurer une montée en puissance des FARDC. Mais encore ce matin, professeur, aujourd'hui matin, les FARDC, les hommes qui étaient supposés aller renforcer les fronts, ont carrément refusé. On a frôlé une mutinerie aujourd'hui à Mubambiro, 9 km de Goma. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, quand je parle de manque d'une vision stratégique de la part des gouvernants, c'est ça. Vous ne pouvez pas investir des millions de dollars dans une entreprise militaire en oubliant le social de vos hommes et espérer avoir des résultats. Non. Et cette posture des faits accomplis, dire que devant l'impossible, nul n'est tenu, c'est irresponsable pour ma part, je trouve. Il y a une personne qui est supposée prendre ses décisions, il y a une personne à qui on est supposé demander ses comptes, et mettre la question sur la table n'est pas à pouvoir devenir la personne qui ne réfléchit pas ou qui ne tire pas en conséquence qui ne tire pas les conséquences de ses propos. J'aimerais bien m'étendre sur la MONUSCO, je ne crois pas, moins que j'ai raté des épisodes, je ne crois pas qu'il existe ou qu'il en existe des plans de départ ou que ça soit un fait qui se passera du jour au lendemain. Et je crois qu'il faut que nous soyons conscients de tous ces aspects. Dès le départ, il faut que nous soyons conscients que c'était une mauvaise décision. L'admettre ne reviendrait pas à aimer moins ce pays. Nous tous, nous aimons ce pays, mais j'aimerais bien qu'on reste dans le factuel. Déjà, nous sommes dans une position où on avait une force d'interposition qui, certainement, du côté de l'EAC, est perçue comme étant un succès, parce que selon certaines clauses, lors du déploiement de ces forces, ils étaient supposés être une force d'interposition. Ils ont créé cette zone tampon. Nous avons eu le semblant de cesser les feux. Il y a eu plus ou moins un allègement de souffrance en termes de calamités humanitaires auxquelles nous sommes en train de faire face ici. Et là maintenant, du jour au lendemain, on continue à pousser pour des accords bilatéraux. Il y a des pourparlers, en tout cas entre le Congo et le Kenya dans le cadre des accords militaires. Même si l'EAC doit partir, qu'adviennent les Ougandais, parce qu'ils sont déjà là dans le cadre des opérations Suja, c'est-à-dire qu'ils vont rester. Je ne veux pas m'étaler sur la question des Burundais, qui seront encore là. Et donc, soulever toutes ces questions-là, je ne crois pas qu'on devrait se réfugier dans la posture à dire que voilà, devant l'impossible, nul n'est tenu. Il y a une piste de solution, il y a des réflexions qui doivent être menées, et l'une de ces réflexions se passe par des choix rationnels. On ne peut pas continuer à jeter de l'argent par la fenêtre alors que le vrai problème est identifié et il est sur la table. Et c'est là que notre compatriote de Bukavu a effectivement raison. Il nous faut réfléchir notre politique de diplomatie. Nous ne pouvons pas toujours tendre la main. Bienvenue. Regardez aujourd'hui, le Kenya est parti en premier, mais pourquoi? Le Kenya, Madame Kelly, n'a pas besoin de rester au Congo pour continuer de fleurir. Le Kenya est venu ici avant d'avoir les troupes sur le sol congolais. Je vous donne l'exemple, Madame, de Equity BCDC, les chiffres qu'ils sont en train de faire. Pourquoi déjà, si on rentre encore beaucoup plus loin, nous sommes partis rejoindre cette communauté est-africaine? En termes du marché commun de l'Afrique de l'Est, qu'est-ce que nous, Congolais, nous apportons? C'est juste un marché de 90 millions de consommateurs. Et eux, ils ont vu ça. Donc, que les forces soient là ou pas, les business ou les intérêts de tous ces États continuent à être protégés, en tout cas d'une certaine façon. Et quand vous regardez leur stratégie, l'ambassadeur kenyan au Congo, c'est un ancien militaire. Les consuls ici en place, à Goma, un militaire, et le tout s'engraine. C'est une stratégie bien ficelée, bien réfléchie. Mais de l'autre côté, on est parti chercher ces forces de l'Est africaine, ils ne se sont pas invités chez nous. On a décrié la même société civile qui a crié contre cette solution, ne devrait pas se retrouver aujourd'hui à être blâmée pour avoir tiré les signaux d'alerte. Donc, je crois que à un certain moment, il faut admettre qu'il y a eu des décisions qui ne font pas sens et avoir assez de courage pour mettre tout cela sur la table afin d'encourager un débat qui nous amène à la production ou à une posture beaucoup plus productive.
Merci.
Donc, je suis d'accord avec notre compatriote de Bukavu. Cette stratégie ou cette diplomatie qui nous a amené dans une vision concrète, et n'est effectivement pas en train de payer, mais d'autre part, les Kenyans, ils sont venus en tourisme, ils sont rentrés, et leurs intérêts continuent à fleurir.
Merci Henri Pacifique. Et là, on va se rendre à Kisangani cette fois-ci pour reprendre ce dernier auditeur qui appelle.
Godin Toela Tokinga depuis Kisangani dans la province de la Tchosso. D'abord, je félicite le gouvernement congolais pour ses retraits récits que je qualifie d'un pas positif pour ces derniers qui, depuis un temps, s'est engagé à se prendre en charge contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. Le recours aux forces étrangères ne doit pas nous être une culture au risque de rendre fatigué notre armée à qui revient principalement la charge de la défense de l'intégrité territoriale. Et tout en félicitant le gouvernement, qui a fait confiance aux alertes de sa population, selon lesquelles cette force de l'EAC serait de mèche avec les M23, je trouve plutôt contradictoire la recommandation de la société civile. Comment comprendre que d'une part, la population dénonce la complicité entre la force de l'EAC et les M23, conduisant même à leur départ, et d'autre part, la société civile de cette même zone fait appel à l'autorité de l'État pour ne pas laisser la population à la merci des rebelles du M23 après le départ des militaires de l'EAC? Cela ne veut-il pas dire que la présence de ces mêmes militaires de l'EAC contribue justement à la protection de cette même population contre les M23?
Je comprends bien les préoccupations de mon compatriote de Kisangani. Et je dois ici dire que, d'abord en commençant par les préoccupations du professeur Moïla, je dois lui dire que l'échec de la mission de la force de l'EAC a commencé par son plan de déploiement. Et peut-être qu'il n'est pas sur terrain, il ne pourra pas le comprendre. Si on voulait créer une zone tampon pour qu'il n'y ait pas des hostilités entre les FARDC et les M23, on devait aligner cette force d'une manière horizontale, de sorte qu'il y ait une zone tampon. Mais la force de l'EAC a choisi des zones où elle devait se déployer. Elle a commencé par Kibumba, en mentant tout un peuple que les M23 s'étaient déjà retirés de Kibumba, alors que c'était un mensonge.
Elle a choisi un mensonge. Avec l'accord du gouvernement des forces des FARDC.
Madame, le commandant de la force à l'époque, quand il venait, il est allé à Kibumba avec des journalistes pour annoncer à toute la population que sa force venait d'occuper tout Kibumba et que l'M23 venait de se retirer. Alors c'était un mensonge, madame. C'est le commandant de la force qui communiquait à cette époque-là. Alors, là, je ne trouve pas un autre responsable que la force, parce que son propre commandant, le général Kenya, qui communiquait. Après Kibumba, ils se sont déployés à Rumangabo. Ils se déploient à Rumangabo alors que le M23 est déjà sur l'axe Tongo. Bon, c'est quel déploiement? Vous déployez derrière l'ennemi au lieu de vous déployer devant l'ennemi et créer une zone entre la force, les deux forces protagonistes, les forces ougandaises. On nous avait annoncé qu'elles devaient venir juste en balayant déjà le M23 sur la route Bunagana et partout là-bas. Mais arrivé à Mabenga, là où ils ont une grande base, vous allez trouver que cette force même a participé à la destruction du parc national de Virunga, de Mabenga jusqu'à Katan.
Alors aujourd'hui, cette force est en train
ils sont dans la coupe de bois, dans la carbonisation. On a même créé des champs. Après le parc national de Virunga, alors que la force du M23 se trouve à Kishishe et à Bambu. Donc, c'est déjà dépassé les positions même de la force. Alors, vous précisez, c'est dire, l'échec de cette force a commencé d'abord par la planification et du plan de déploiement. Et aujourd'hui, si la force a été haïe par tout le monde, c'est parce que la population a constaté que la force était en congestion dans plusieurs entités avec les rebelles.
Est-ce qu'aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui les FARDC sont en mesure de prendre la relève?
Il y a quand même certains efforts dans la formation des hommes, leur déploiement et consorts qu'on est en train d'observer sur le terrain. Et nous pensons que le gouvernement pourra aussi faire tout et leur donner tout le nécessaire pour que les FARDC fassent leur travail. Parce que c'est pour ça que nous avons les FARDC, c'est protéger l'intégrité du territoire national. Et nous, le plaidoyer qui reste et la pression à exercer, c'est de demander maintenant au gouvernement de pouvoir s'assumer et compter sur les FARDC en leur dotant tout le moyen nécessaire pour qu'elle libère tous les espaces qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Parce que au départ de la force de l'EAC, c'est la fin de son mandat, et nous considérons que les histoires de cesser le feu ne sont plus à évoquer. parce que c'est des histoires de la force de l'EAC, et la main est déjà libre au FRDC de pouvoir reconquérir tous les espaces, et c'est ce que nous attendons, et nous pensons que le commandant suprême de FRDC pourra leur intimer cet ordre de pouvoir bien libérer tous les espaces pour que nos populations qui sont dans des cas de déplacés reviennent dans leurs entités respectives.
Alors, très rapidement, vous répondez à la préoccupation de Alpha Tokinda depuis Kisangani qui parle, qui a l'impression que vous vous contredisez, vous, société civile. D'une part, vous demandez le départ de cette force qui, selon vous, protégez la population, qui était censée protéger la population. De l'autre côté, vous demandez au gouvernement de vite trouver des solutions pour que cette population soit protégée après le départ de la force de l'EAC.
Peut-être c'est parce que notre compatriote est très éloigné. Il pourrait peut-être consulter les archives de la société civile et voir les violations des droits humains qui sont commises dans les zones où cette force était déployée. Cette force elle-même, elle a été victime à Kichanga des tirs de M23 et s'était retirée avant même que les délais ne soient atteints. La force burundaise qui était à Kichanga, et même à moi, s'était déjà retirée parce qu'ils étaient attaqués par le M23. Et que donc, à notre niveau, c'est lui dire que quand on est un peu sur le terrain, on comprend mieux la réalité que parce qu'on est éloigné. Mais à notre niveau aussi, c'est lui préciser que ce n'est pas une contradiction. Nous sommes en train de rendre notre pays responsable devant la situation et non mettre cette situation entre les mains d'autres personnes. Nous avons une armée ici, il suffit de bien la traiter, de bien l'encadrer et de bien l'outiller et elle va faire ce travail. Elle est capable, elle nous a prouvé dans des jours passés qu'elle était capable, il suffit seulement de l'aider à être capable de le faire et cette armée doit le faire. Nous devons être responsables dans notre histoire et dans l'histoire de ce pays comme une génération qui a la responsabilité de relever tous les défis qui nous ont été légués par nos prédécesseurs.
Merci,
et aujourd'hui,
Placide.
Nous avons les FRDC qui doivent combattre et libérer tous ces espaces. Et l'État doit leur offrir tout l'environnement nécessaire pour le faire.
Merci Placide Nsilamba. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission. Professeur Moïla Chiembe, les FRDC, nos militaires, nos forces sont en mesure de protéger la population, de protéger les frontières de la RDC, l'intégrité territoriale. Il suffit de les mettre juste dans les conditions.
Bien, écoutez, Madame Kelly, je voudrais dire à notre collègue qui a parlé tout à l'heure en lui disant que le débat sur l'armée de ce pays, je l'ai mené depuis longtemps. Je ne peux pas lui faire l'injure de lui demander s'il a lu mon livre sur l'armée républicaine en République démocratique du Congo et les conditions de son émergence. Je présume qu'il connaît ce livre. Pour moi, ce sont des débats passés. Nous en avons discuté. Nous avons dû, dans les limites de nos connaissances scientifiques, les possibilités de mettre sur pied une armée capable de se battre. Ce livre existe. L'armée, depuis les miliciens de différentes formes qui ont été mélangés, mélaxés pour donner les FARDC. Les réformes ont été engagées sous le gouvernement du président Kabila, quelle que soit l'opinion qu'on puisse en avoir. Les réformes sont toujours nécessaires, mais ce dont nous parlons n'a rien à voir avec la réforme de l'armée. Nous parlons de nos compatriotes agitateurs qui menacent le gouvernement matin et soir, sur vos antennes, sur d'autres antennes. Le gouvernement doit faire demain ceci. S'il ne fait pas cela, il verra. Mais ces gens-là, société civile, madame, ils ont reçu mandat de qui? Je comprends bien que nous sommes dans un État démocratique. Tout Congolais a le droit de parler. Est-ce que vous pensez que deux individus, trois individus, tout à l'heure vous avez entendu l'argument, oui, vous habitez loin, vous ne connaissez pas les réalités. C'est l'argument des faibles. Quand on n'a rien à dire de pertinent, on accuse l'autre de ne pas connaître la réalité, puisque vous êtes loin, parce que vous êtes, parce que vous êtes. Notre collègue de Kisangani a mis le pied dans les plats. Ces gens-là, madame, ils tiennent des propos irresponsables. Ils connaissent bien l'état de notre armée, ce ne sont pas des étrangers. Mais pourquoi disent-ils matin, soir, oui, il ne faut pas que ceux qui sont venus partent, ils partent, notre armée sera là. Mais notre armée est là, madame. Quelle est sa capacité de sécurité et de défense aujourd'hui? Quel est son équipement?
Alors, professeur,
combien mangent nos soldats? Quels sont les moyens pour se battre? Lui, il le connaît.
Professeur, est-ce qu'il
préfère dans les médias faire son cinéma, mais tout ça, c'est pour amuser la galerie. Je pense que c'est un débat qui ne mérite pas d'être mené à ce niveau. Le sang coule, nos soldats meurent, et quand on entend de tels propos, c'est irresponsable.
Vous pensez que c'est un peu précipité pour vous, le départ de l'EAC?
C'est précipité, pourquoi, madame? Même s'il y a raison de faire demain un débat sur qu'est-ce que ça a apporté la stratégie de mutualisation des forces, ce débat est nécessaire. Mais il aura lieu demain. Mais si on met la pression sur le gouvernement pour demander aux forces qui sont là de partir, ces forces laissent un vide. Est-ce que notre armée, pour parler comme ce monsieur de société civile, a-t-il les moyens aujourd'hui d'occuper les territoires? Il sait bien que ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses,
merci,
quelle que soit la volonté de nos soldats. Mais c'est irresponsable de tenir de tels propos.
Merci, professeur Moïla. Henri Pacifique Mel, à votre conclusion, très rapidement.
Merci beaucoup, Madame Thierry. Merci au professeur Moïla et à notre collègue de la société civile pour ce moment d'échange. Je suis particulièrement très content de la conclusion du professeur Moïla et je voulais juste vous rassurer que oui, j'ai lu vos ouvrages. Et je suis content que vous m'ayez rencontré sur le fait que oui, nous avons cette armée, mais où en sont les conditions pour que nous puissions les responsabiliser de la mission qui les leur appartient. Par contre, je crois qu'il nous faut à un certain moment prendre notre responsabilité en main et savoir demander les responsabilités à qui des droits. Je continue de croire que notre gouvernement porte la responsabilité des choix et décisions qui nous ont amenés à ce stade où nous sommes et continuer à dédouaner ces mêmes responsables revient à nous remettre dans ce cercle vicieux qui ne nous donne pas de solution, mais qui, par contre, continue de nous enfoncer davantage. J'espère qu'un jour, nous puissions avoir la paix, mais essayons de plus en plus de dépassionner le débat et rester dans le rationnel pour qu'ensemble, nous puissions parvenir à des solutions qui nous apportent la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo ainsi que dans la région de l'Est de Grand Lac.
Merci Henri Pacifique Mayala, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné, Journal Mokondo, Clément Chimanga, Donaton Fanani, Hervé Voka, Guy Maté, Dona Madimba. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.